France Culture.
Bonjour le Book Club, bonjour Alain Guiraudy. J'ai lu votre roman et j'ai retrouvé le même plaisir, le même enthousiasme à suivre cette nouvelle aventure de Jacques et Jean-Marie. J'aime beaucoup le côté débridé de votre entreprise et vous réussissez à vous réinventer et à entretenir un souffle, une vélocité qui moi m'impressionne.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Persona, persona non grata, et tout cela au pluriel. Un corps d'homme abrite au moins deux hommes aujourd'hui dans votre book club. C'est ainsi que dans le nouveau roman d'Alain Guiraudy, Jean-Marie Berthaumieux, curé de village, est véritablement occupé par l'âme de Jacques Bangor, ami, voisin et amant occasionnel mort d'un infarctus. Des corps morts, des corps vivants, des corps désirants, des corps torturés, disparus, des corps abusés sexuellement, le livre en est peuplé. Il semble même pouvoir y fusionner les uns avec les autres dans une porosité générale et bien des fois délétère. Grande transmutation des matières au gré de toutes les pulsions, mortifères comprises. Le tout dans un monde qui va mal et doit s'acclimater du vacillement de la foi. On prie beaucoup dans ce roman, ce qui ne sauve ni du stupre ni du crime. Le cinéaste et romancier Alain Guiraudy est notre invité. Aujourd'hui, on est ensemble pour une heure. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Bonjour Alain Guiraudy.
Bonjour.
Soyez le bienvenu dans le Book Club.
Ben non, je suis très content d'être là. Chez vous.
Le persona non grata, c'est le titre de ce nouveau roman. Vous êtes cinéaste, vous avez publié 4 romans aux éditions POL. C'est le dernier de ce qui peut constituer une sorte, un ensemble, un feuilleton, on y reviendra.
Les trois derniers, oui.
Mais ce qui peut évidemment se lire un livre après l'autre et séparément. Ici, on commence toujours l'émission par faire connaissance avec nos invités en parlant de leur rapport à la lecture et au livre. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir appris à lire ? Et c'était où ? Près de qui ? Dans quel genre de paysage ?
Avoir appris à lire, oui, curieusement, je sais que j'étais très curieux de la lecture, très petit, quoi. C'est-à-dire même avant le CP où on apprend à lire, quoi. Voilà, je sais que je posais des questions. Je me rappelle d'un album de La Chèvre de Monsieur Seguin avec des images et je posais la question. Je demandais à ma mère qu'est-ce que c'était que ce mot, voilà. Et petit à petit, et je pense que j'ai appris à lire comme ça un peu sur le tas. Voilà, et je me suis perfectionné au CP, évidemment, quoi. Voilà.
Et c'est un bon souvenir, cet apprentissage ?
Ouais. Mais enfin, surtout, c'est la, comment dirais-je, c'est la curiosité. J'étais assez impatient de savoir lire, quoi. Je me rappelle, c'était quelque chose qui était, j'étais assez fasciné, là, par les mots. Bon, par les images aussi, il y avait quand même le support des images. Mais, là, j'avais super envie d'apprendre à lire. Et même encore, c'est vrai que je vois, je reste fasciné. Régulièrement, je me mets à apprendre le japonais ou le persan.
Et ça répond à la même curiosité, vous
dire. Complètement. Ouais. Après, hein, je vais jamais très loin. Hein, je suis loin de pratiquer le persan ou le japonais, quoi. Mais le russe aussi. Enfin, j'ai gardé cette curiosité pour les autres alphabets, ouais.
Il y avait des livres là où vous avez grandi ?
Il y avait des livres. Alors, oui, même, je pense qu'on était même une maison, c'était à la campagne, mes parents étaient agriculteurs, ma mère lisait beaucoup, le mercredi matin, je partais acheter Télépoche, nous deux, ma mère lisait nous deux, et Pif Gadget pour moi, voilà. Et puis, il y avait beaucoup de bouquins, alors c'était plus, Henri Troyat, Gilbert Cesbron, Delhi. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, Delhi. C'était les romans à l'eau de rose, avec une couverture très, très rococo, des couvertures assez moches d'ailleurs, quoi. C'était un peu l'ancêtre de d'Arlequin, quoi, ou le prédécesseur.
Lui par votre mère.
Ma mère lisait beaucoup ça, ouais. Et voilà, Guy Descartes. Voilà, je me souviens de Guy Descartes aussi. Voilà. Et puis,
Et vous alliez dans cette bibliothèque, ça vous intéressait, les livres qu'il y avait là, ou vous avez commencé plutôt par autre chose?
Ouais. Non, moi, j'étais très, très, très intéressé par tout ça, quoi. Je me rappelle vraiment de cette littérature assez académique française, publiée chez J'ai lu, généralement, quoi. Ouais, j'ai beaucoup commencé. Non. En fait, les livres sans images par lesquels j'ai commencé, c'est Fantomètre, Le Club des Cinq, Le Clan des Sept, ce genre de choses, quoi. Puis, et évidemment, quand même, bon, il faut quand même le citer parce que c'est Tintin. Tintin, Astérix, Obélix, Gaston.
Il y avait des
Lagaffe.
Bandes dessinées aussi.
Ouais, on avait beaucoup de bandes dessinées. Ouais.
Vous n'avez pas terminé votre phrase tout à l'heure. Vous avez dit c'était à la campagne, mes parents étaient agriculteurs et c'était une maison. Oui, c'était une maison, comme si c'était une maison particulière le fait qu'il y ait des livres.
Ah ouais, parce que je me rappelle quand j'allais chez les copains, il y en avait
moins.
Je me rappelle mon meilleur copain chez qui la première fois que j'ai été chez lui, un copain du collège, on était en quatrième, un truc comme ça, cinquième, quatrième, et il y avait Tintin et les Picaros et c'est tout. Et je me disais, ouais, j'étais assez étonné qu'on puisse vivre comme ça dans une maison avec juste Tintin et les Picaros, quoi.
Oui, alors qu'on peut très bien vivre avec Tintin et les Picaros et c'est tout.
Ben oui, il y arrivait, en tout cas mon copain, il y arrivait très bien, ouais. Mais nous, il nous fallait,
on
avait un peu tous les Tintin, tous les Astérix, et voilà, on lisait beaucoup. Ouais.
Et qu'est-ce que vous avez trouvé dans Tintin ?
Alors Tintin, c'est marrant parce que je le cite beaucoup comme grande influence cinématographique. Je pense qu'il y a quelque chose de les images, le découpage. Enfin, alors bon, je l'analyse comme ça maintenant, quoi. Mais à l'époque, qu'est-ce qu'il y avait ? Ben, il y avait le voyage. Il y avait une histoire quand même immédiatement compréhensible, je sais pas, cette ligne claire d'Hergé, quoi, le point d'interrogation au-dessus de la tête quand le mec se pose une question, quoi, il y a quelque chose de lisible. Je pense que effectivement Tintin, je pense que j'ai lu aussi Tintin comme La Chèvre de Monsieur Seguin sans savoir vraiment lire, quoi, voilà. Et puis même cette ligne claire finalement fait qu'on, cette simplicité, cette épure dans les décor fait que quand même on se construit tout un monde, quoi, ça invite. Ah, moi je trouve que ça a vachement façonné mon imaginaire, ou fait travailler mon imaginaire.
Oui, c'est peut-être paradoxalement l'idée d'une ligne claire et d'une simplicité qui aurait laissé la place à votre imaginaire.
Exactement, quoi. Oui. Moi je sais que ça m'a. Oui, ça quand même, ça oblige un peu à bosser, quoi. Enfin, l'imagination à travailler, quoi.
Et vous êtes devenu quoi comme lecteur après ? Quand vous n'avez plus pioché dans la bibliothèque de chez vos parents ?
Après, qu'est-ce que... Alors, bon, si, il y avait quand même des trucs, genre des grands classiques, genre le Grand Moln, Les Misérables, de Victor Hugo. Enfin, il y a quand même... J'ai lu un peu des trucs comme ça. Puis après, non...
Adolescent ?
Ouais, j'étais au collège, là. Ouais. Mmh. C'était ado, pré-ado. Ado, ouais. Après, je me suis pas fait les trois tomes des Misérables quand j'étais ado. Ouais. C'est venu beaucoup plus tard, ça.
Et vous y êtes venu ?
Mais j'y suis venu, ouais. J'ai un bon souvenir de Jules Verne aussi, quand même. Ouais. Mais ça, là, on rentrait dans la littérature, enfin, dans les bouquins épais, voilà, c'était... Mais ça, c'était encore chez... Enfin, ma mère avait encore ce genre de choses. Et puis après, quand j'ai trouvé mon autonomie littéraire, je pense que L'Idiot de Dostoïevski, ça a été un grand moment, quoi. Voilà, je me rappelle, je l'ai lu, j'étais ado, j'étais au lycée, là, j'avais 17 ans, et je l'ai lu en deux nuits, quoi. Voilà, ça, je me rappelle très bien, Les Deux Nuits Blanches.
Ah ouais.
De Dostoïevski, de L'Idiot.
Est-ce que vous écriviez à ce moment-là ? Parce que vous racontez qu'il y a eu quelque chose du désir de cinéma et du désir d'écriture qui s'est côtoyé pendant un temps. Avant que de choisir plus franchement le cinéma.
Alors, qu'est-ce que c'est de, disons que oui, il y a eu, je me rappelle d'un moment quand j'étais collégien, j'avais décidé d'écrire un bouquin et j'avais récupéré, on avait une machine à écrire, on avait acheté une machine à écrire à la maison, vraiment un vieux truc, et j'avais découpé, vous savez, il y a toujours des pages qui servent à rien au début du bouquin, quoi, où il y a rien d'écrit dessus, tout ça, j'avais repris des pages des bouquins de la Bibliothèque Verte, des premières pages, et j'avais commencé à écrire un roman là-dessus, quoi, voilà. Bon, j'ai fait deux pages, hein, et puis j'ai arrêté, j'étais à sec.
Oui, il y a une petite curiosité.
Mais voilà, il y avait déjà cette envie, quoi, ouais. Et puis après, non, vraiment le passage au roman, ouais, c'était ma première première année de fac, j'avais 19, 20 ans, quoi, voilà. Et j'y suis venu, alors j'ai écrit un premier roman, disons que je voulais déjà faire du cinéma, mais le cinéma me paraissait quelque chose de très compliqué, de loin, c'était à Paris, et puis fallait de l'argent, quoi, voilà, ça demandait des moyens, quoi, je me suis dit, tiens, on va commencer peut-être par écrire des choses, en fait, fondamentalement, j'avais envie de raconter des histoires, donc je m'y suis un peu mis par défaut, puisque par envie, d'ailleurs, j'ai quand même écrit, je suis arrivé au bout de 3 romans quand même, finalement, parce que c'est marrant, il y en a un que j'oublie toujours. Et c'est marrant, en repartant de l'enfance, je repense à ce roman que j'ai écrit pendant que je faisais semblant d'être en fac, quoi. Et puis après, j'en ai écrit 2 autres quelques années plus tard. Ces deux-là, je les ai envoyés aux éditeurs, alors que le premier, je ne l'ai même pas envoyé aux éditeurs, quoi. J'ai eu conscience très immédiatement que ce n'était pas bien, que ça n'avait aucun intérêt, quoi. Les deux autres, j'ai un peu cru, quoi, voilà. Avant de me dire, 6 mois après avoir essuyé plein de refus, de me dire que non, finalement, ça ne méritait pas d'être publié.
Et le cinéma vous appelait ?
Et le cinéma, le cinéma m'a appelé. Je veux pas dire que le cinéma français m'ait fait
m'appeler
énormément. J'avais envie de faire du cinéma, mais le cinéma c'est plus parti. C'est encore parti d'un truc assez littéraire, mais sauf que justement après l'échec de ces deux romans là, le refus d'éditeur de me publier et ma prise de conscience que c'était vraiment pas bien, je me suis dit tiens, tu vas écrire un truc sans te poser la question de vouloir écrire un roman ou écrire un scénario, tu sais pas ce que ça sera, mais t'écris un truc, voilà, un truc qui te ressemble, sincère, dégagé de toute influence, voilà, j'avais quand même cette alors que c'est loin d'être dégagé de toute influence, mais quand même, c'est avec des influences plutôt digérées, quoi, voilà, mais écrire un truc à toi, et ça a donné mon premier court-métrage, voilà. Mais effectivement, la forme écrite de ce premier court-métrage, c'était pas un scénario, c'était pas une pièce de théâtre, c'était pas une nouvelle, c'était un truc très très hybride.
Un texte,
entre
quoi.
Tout ça, ouais.
Aujourd'hui, vous cherchez quoi dans les livres que vous lisez ?
Ah ! Alors, qu'est-ce que... Alors, c'est marrant parce qu'à ce moment, je suis dans Rabelais, dans Finnegan's Wake de Joyce. Et alors, pareil, on revient avec Rabelais, on revient un peu avec la curiosité pour une langue assez compliquée à comprendre. Mais je triche et je le lis dans une édition bilingue. Enfin, vous savez, l'édition Gallimard, du Point, Seuil, avec la translation en français, quoi. Voilà. Donc, je vais du vieux français de Rabelais à... Mais quand même, il y a un truc très qui me plaît énormément dans la vieille langue, dans le vieux français l'ancien français de Rabelais, qui me plaît depuis très très longtemps d'ailleurs.
Même, et pourquoi ?
Je crois que ça a à voir, c'est un peu mon rapport aussi aux langues étrangères, ça a à voir avec une autre langue, avec quelque chose de différent, avec le latin par exemple, où je me suis passionné pour le latin pour les siècles des siècles, alors que...
Qui est un précédent livre.
Ouais, voilà, franchement, ça m'a pas passionné pendant mes... au collège, quoi, ni au lycée, le latin. Enfin non, je l'ai même pas fait au lycée. Et ça a plus à voir avec l'inconnu, une autre langue. Ailleurs, j'ai pas encore complètement
comme Joyce, c'est-à-dire
et Finnegan's Wake, on est à fond là-dedans, quoi. C'est-à-dire, c'est un livre que j'ai déjà lu en entier, et c'est étonnant parce que c'est un livre auquel je ne comprends rien et qui fait quand même ses 700 ou 800 pages et que je lis de A à Z. Là, pareil, je l'ai repris à la fin et je l'ai commencé à la fin parce que ça, c'est une boucle, quoi, voir un peu l'effet que ça faisait de le commencer avant la fin, et j'ai repris au début et c'est marrant. Alors là, je suis porté par la langue, par les calembours, les jeux de mots, enfin il y a tout un truc sans être porté, on va dire, par l'intrigue ou la narration à proprement parler, quoi.
C'est un autre sens, c'est pas forcément le sens de la compréhension.
Exactement, ouais. Et ça m'intéresse beaucoup. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a un truc qui m'est revenu il y a pas longtemps aussi, c'est que Proust a dit un truc ou écrit un truc du genre « Tous les grands livres donnent l'impression d'avoir été écrits dans une langue étrangère. » Et je trouve qu'il y a de ça. Il y a ça chez Céline, je trouve qu'il y a ça chez Proust d'ailleurs aussi, quoi. Finalement, on est où franchement, c'est pas la langue qu'on pratique visuellement, c'est pas une langue si familière que ça.
Mais c'est étonnant que vous pointiez ça dans votre rapport à la lecture, Alain Guiraudy, parce que dans le texte qu'on va évoquer aujourd'hui, il est beaucoup question d'avoir un autre en soi, ou plusieurs autres en soi. Et comment est-ce que ça modifie notre rapport au monde, d'être comme habité par l'étranger ou l'étrangeté, à vous écouter, c'est peut-être quelque chose qui s'origine dans un rapport au langage, quoi. Avoir d'autres langues en soi, avoir des langues étrangères en soi.
Ouais, alors bon, là j'ai du mal à rebondir là-dessus, mais non, mais ça m'a l'air très juste. Ouais, ouais, effectivement, il y a quelque chose comme ça, ouais, de l'autre en soi, et là, oui, oui, la langue étrangère. Ouais, il y a un truc avec l'altérité, ouais, effectivement, ouais, ouais.
Et vous lisez beaucoup?
Est-ce que je lis? Oui, je pense. Enfin, alors ça dépend à qui on compare. Quoi.
Oui, c'est ça.
Si je compare à Frédéric Boyer, je pense que je suis vraiment un très,
Frédéric
très
Boyer
petit
qui
lecteur.
Dirige les éditions POL et qui lui-même éditeur et auteur. Oui, c'est voilà. Vrai, c'est bizarre comme question. Je devrais pas dire vous lisez beaucoup. Je devrais dire quelle place occupe la lecture dans votre vie.
Non, je lis. Ouais, ouais, oui. Non, c'est important. Je lis tous les jours. Je lis déjà tous les jours. Je lis. Bah, une journée normale commence par de la lecture. Ouais. Je lis
tous les jours.
Je lis tous les jours, tous les matins. Ouais, ouais. Bon, après, non. Si j'ai un train à 5h du mat, ouais, que je me lève à 4h, à 3h30, non. Je lirai dans le train. Mais ceci dit, je lis dans le train, donc. Ouais, honnêtement, je lis tous les jours. Ouais, ouais.
Et pourquoi?
C'est nécessaire, ouais, je sais pas, c'est un peu nécessaire à mon équilibre. Je sais pas, ça me fait bien démarrer la journée, moi, toujours. Ouais, ouais. Non, je sais, incapable d'expliquer pourquoi.
On n'est pas obligé?
Non, on n'est pas, ouais. Il faut pas toujours savoir pourquoi on fait les trucs, ouais.
On va écouter Étienne Dao, Le Phare. Et juste après, on parle de votre livre Persona non grata.
C'est comme un tremblement subtil dans l'air pur, ta lueur d'un lundi d'été, une brûlure, un délicieux baiser, une morsure, un pacte secret. Ce sont de merveilleux moments où l'on sait ces instants où nos yeux, flèches d'acier comme de fleurs et blancs, se sont croisés avant d'échanger. C'est comme un phare dans le soir, c'est comme un vœu silencieux, c'est comme un phare, et les autres n'y voient que du feu. Comme deux invisibles fiançailles que trahissent un geste, un détail, un regard qui couronne et qui médaille, fait battre les sangs. Quelle est la part de chance du divin et la part du hasard de l'instinct qui sur les voiles de nos destins m'impacte en secret? C'est comme un phare dans le noir, c'est comme un désir impérieux, c'est comme un phare, et les autres n'y voient que du feu. C'est comme un phare dans le soir, c'est comme un vœu silencieux, c'est comme un phare, et les autres n'y voient que du feu.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Le monde va mal, il y a trop de l'autre en moi. Comment ne pas être du côté du mal? Existe-t-il des problèmes sans solution? Et comment ne pas crever d'angoisse à cette seule question? Dans votre dernier livre, Alain Guiraudy, un homme, curé de village répudié, est obsédé par sa capacité d'érection et ses éjaculations comme étant le signe ultime qu'il est vraiment en vie. Après la mort de son voisin, ami et amant, il l'absorbe. Ainsi, il abrite son âme ou quelque chose de son être disparu, de sa pensée, de ses désirs. Cela modifie sa façon d'être au monde, à quoi l'on rajoute différentes décoctions qui modifient, elles aussi, tous les états de conscience. Cet homme désire beaucoup autour de lui. On peut même dire qu'il désire tout ce qui est vivant et pourtant, la mort est là. Le mal aussi. Par exemple, sous ses traits extrêmes de la pédophilie. Persona non grata, apparu aux éditions POL, et c'est votre nouveau livre, Alain Guiraudy. Est-ce que vous voulez bien nous parler de ce village qui abrite? Il y a comme une sorte de poupée de gigogne. Il y a le cosmos, on y viendra, qui est présent.
Oui.
Hein, on est d'accord?
Oui, oui, on est.
Il y a même l'au-delà.
Oui. Ouais.
Il est beaucoup question de Dieu et peut-être de son absence. Mais il y a quand même ce village, Gogluz.
Oui, alors, est-ce que je peux dire grand-chose ? Non, c'est un village vraiment perdu dans une, ouais, dans une France quand même très, 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 très profonde, dans une vallée, quoi. Oui, bon, ok, moi, je pense, oui, puis c'est toujours un, comment dirais-je, c'est toujours un mixage dans ma tête entre un village que je connais réellement, dont je tairai le nom, et...
peu importe, la question, c'est plutôt...
D'autres villages... Ouais. Et peut-être c'est un village fantasmé quoi, finalement quoi. Il y a vraiment le côté on est loin de tout, on est loin du monde et dans une vallée propice à ouais je pense c'est assez le village de ouais on parlait du Seigneur des Anneaux tout à l'heure, c'est vrai que ça pourrait être un village du Seigneur des Anneaux quoi, au fond d'une vallée profonde quoi, quelque chose d'assez enterré, d'assez qui peut être très sombre et où on peut être très seul quoi.
Quand vous dites que le fait qu'il soit perdu et loin de tout, c'est propice à des choses, vous diriez quoi ? C'est un éloignement ? Parce que c'est étonnant, à la fois, en effet, c'est un village assez abstrait, c'est-à-dire qu'on n'a pas de description de petites rues, de commerces, de maisons, c'est pas la question. Mais c'est quand même un village et le nom de ce village revient. Ça veut bien dire que ce qu'il est en tant que tel, c'est un territoire qui permet tout ce qui va se passer ensuite, c'est-à-dire beaucoup de choses, et beaucoup de choses de l'ordre de la porosité, de l'absorption, d'un désir parfois mortifère de fusion, Alain Guiraudy. Et il est loin, mais il est quand même percuté par le fait que le monde va mal.
Oui. En même temps, le monde qui va mal, le monde est loin. Enfin, ils sont percutés parce que par la montée des prix, parce qu'il manque du carburant. Il y a ouais des trucs très très concrets dans leur vie de tous les jours. C'est là que ça les impacte. Quoi après, les problèmes du monde, c'est dans la télé, c'est loin. Voilà. Mais bon. Et puis de toute façon, même je pense que même en vivant le plus retiré possible, on serait impacté. Enfin, maintenant avec la mondialisation, en plus on est vraiment impacté par le moindre truc qui, enfin par les dégâts qui ont lieu dans le monde, quoi. Ben, et puis surtout de plus en plus par les dégâts écologiques, quoi. Voilà. Je pense que pour revenir à cet éloignement, je pense que c'est propice. C'est vrai que je m'en sors souvent en disant truc ou chose, mais pour être un peu plus précis, je pense que c'est propice au mythe, à la mythification aussi de tout ce monde-là. Quoi. Il y a un côté du fait de l'intemporalité. Quoi. C'est aussi un village d'aujourd'hui, mais ça pourrait être un village du siècle dernier. C'est un truc qui remonte très loin. C'est vrai que, comme vous disiez, il y a les éléments... C'est l'église, la place de l'église, le cimetière, le ruisseau en dessous du cimetière.
La forêt.
Ce qui était le café, quoi. Voilà. Quand je parle du village tel quel, effectivement, il y a très, très peu d'éléments. Et même moi, je pense que je ne me suis pas franchement fait un plan sur papier du village, quoi. Je préfère le laisser comme ça, quelque chose d'un peu flottant, en donnant juste quelques éléments assez essentiels et caractéristiques du village typique, village typique d'une vallée des Cévennes, quoi, on va dire.
Quand vous dites que c'est propice au mythe, vous soumettez de toute façon et le texte et vos personnages à des très grandes questions mythologiques, archaïques, à commencer par le bien et le mal, la présence ou l'absence de Dieu, la foi ou la non-foi, les interdits, les plus grands interdits, les plus grands tabous, la possibilité de fusionner avec autrui, de son vivant ou après la mort. C'est des grandes questions, Alain Guiraudy. Est-ce que vous avez l'impression, quand vous commencez à écrire ce roman ou les autres, que c'est à ça que vous voulez vous attaquer ou c'est écrivant l'histoire que vous vous rendez compte que c'est de ça dont il s'agit ?
C'est les deux quoi, c'est-à-dire c'est assez complexe. Oui, en fait, on veut oui, c'est vrai que je me suis mis à écrire parce que effectivement il y a plein de choses. J'ai à écrire des romans parce qu'il y a plein de choses que j'arrivais pas, que je ne faisais que survoler ou qu'évoquer ou que même que j'avais du mal à évoquer même cinématographiquement quoi. Voilà. Donc
comme quoi,
notamment ces grandes questions quoi. Alors, la gérontophilie, la pédophilie, non, la pédophilie, c'est pas la pédophilie, c'est le fait, non, concrètement, c'est après le roi de l'évasion, je me mets à écrire Ici commence la nuit, aussi parce que le vieux monsieur dans le roi de l'évasion n'était pas assez vieux, parce que effectivement, quand on cherchait des acteurs, on est quand même vite limité, quoi, et que moi je voulais un centenaire, et j'écris Ici commence la nuit avec un centenaire, et pareil, la jeune fille était pas assez jeune, quoi. C'est-à-dire que je fais le film avec Afsersi, qui a 22 ans, alors que, et dans le roman, c'est vraiment avec une gamine de 14 ans, quoi, qui est en... Qui
et là, relevée, vous reculez, voilà. On y viendra, parce que quand je dis que, il me semble que vous vous attelez à des questions qui sont des questions limites, donc ouais. Existence de Dieu, absence de Dieu, foi, non-foi, vie, mort et pédophilie, c'est une des questions limites quand on veut se poser la question du mal aujourd'hui dans le monde contemporain. Ouais. L'enfant a 9 ans, ça veut dire qu'il y a sciemment, vous vous dites, ça va me permettre de le penser, ça va me permettre de penser ces questions-là.
Oui, ça va me permettre au moins de les évoquer, quoi. Oui. Ah ben, c'est quelque chose que je ne ferais pas en film. Voilà. J'engagerai pas un enfant de 9 ans pour ce genre de choses, quoi. Et après, en plus, je pense que c'est important aussi d'y aller, quoi. Enfin, je pense à mes propres émois érotiques de quand j'étais petit, quoi. Quand j'étais enfant, quoi. Voilà, je trouve que ça commence beaucoup plus, ça commence quand même très jeune, ces choses-là, quoi. Y compris du côté de l'enfant, quoi. Voilà. Et puis, pour le coup, il y a même un prêtre qui se retrouve effectivement face à un enfant qui a envie de lui.
Ah oui, parce qu'on parle pas de la même chose quand on parle de désir de l'enfant, de sexualité de l'enfant, c'est une chose. Qu'un enfant ait un vécu érotique, ça ne fait aucun doute. Et évidemment qu'il faut pouvoir y aller, même si c'est pas forcément simple, Alain Guéraudy. Mais vous, vous écrivez des scènes où un curé pénètre un enfant, ce qui est une scène de pédophilie.
Il le pénètre pas.
Ah, on n'a pas lu les mêmes. J'ai pas lu le même texte que celui que vous avez écrit.
Il veut, mais il est sauvé par le. On est sauvé par le gong parce qu'il y a Rosine qui arrive. Mais effectivement, il se pose la question de est-ce que je peux y aller. Il y a cette histoire avec l'enfant, quoi. Voilà. Mais il fait une fellation à l'enfant. Il se dit même je vais.
Oui, donc c'est de la pédophilie.
Je vais. C'est-à-dire, il se dit si je suis en situation passive, c'est-à-dire que c'est moins de la pédophilie, c'est moins grave que si je suis en situation active.
Mais
il y va effectivement en se posant toutes ces questions-là quand même. Quoi. Voilà, je pense que ça c'était ça qui était important. Quoi. Mais non, il y a pas la pénétration, il y a pas viol. Quoi. Voilà. Et effectivement, même l'enfant.
Une fellation, ça peut constituer un viol.
Oui, tout à fait. C'est moins problématique que la fellation, je ne pourrais pas laisser dire ça
conversation. Mais de toute façon, la question c'est plutôt de se dire qu'est-ce qui motive, parce que c'est vrai qu'elles sont dérangeantes, elles sont difficiles à lire bien sûr ces pages-là. En tout cas, moi, elles m'ont été difficiles. Dans votre idée, il y a l'idée que le roman va nous aider à penser ces questions limites.
Dans mon idée, il y a disons que je suis pris entre deux feux, entre effectivement moi la morale ambiante et je veux dire il y a quand même des gens qui l'ont fait, il y a quand même pas mal de curés qui ont eu des rapports avec des enfants. Il y a des enfants, enfin moi je me rappelle l'enfant que j'étais qui effectivement s'est aussi posé des questions par rapport à ça, quoi. J'ai des expériences, pas avec des curés, mais j'ai quand même eu une expérience avec quelqu'un de beaucoup plus âgé que moi quand j'étais préadolescent, quoi. Voilà, il n'y a pas eu, je lui en tiens par rigueur, il n'y a pas eu de viol, il y a eu un total respect, quoi. Voilà, mais donc, effectivement, je remets, c'est à la fois remettre mon expérience intime au centre du, enfin, à partir de mon expérience intime, me reposer effectivement toutes les questions et reconvoquer et même réinterroger toute la morale ambiante aussi, quoi.
On va écouter le réalisateur Bertrand Modico parler de son érotisation de la nature. Je disais que ce personnage a beaucoup de désirs, il est beaucoup question de son érection, de ses éjaculations. D'ailleurs, il y a aussi des prières qui sont jaculatoires, il y a une manière de prier Dieu qui a à voir avec le fait d'éjaculer et une façon d'ensemencer jusqu'au cosmos. D'abord Modico et ensuite un extrait de votre texte.
Est-ce que je peux quand même, parce que c'est quand même important cette question, il y a aussi un truc que j'étais un peu en train de zapper, c'est que le curé a ce rapport, lui il s'est toujours empêché d'avoir le rapport avec l'enfant, d'avoir un rapport sexuel avec l'enfant, mais c'est justement au moment, alors là je spoil sacrément quoi, mais c'est au moment où il est où il a fusionné avec la personne la plus maléfique du roman, c'est-à-dire l'adjudant Grégory, c'est à ce moment-là qu'il va un peu plus loin avec l'enfant, quoi, hein. Enfin, c'est pas non plus associé. Enfin, et il s'interroge sur la fin. Est-ce que je suis encore une bonne personne?
Bah, il dit même qu'il n'est plus une sainte personne. Voilà, c'est la dernière phrase de votre roman.
Voilà, faut que, ouais, quand même, c'est pas. Non, je voudrais pas que ça ait l'air d'être placé tout ça sous le signe de. D'une apologie de la pédophilie.
Bah, j'espère pas, non. Voilà. C'était justement pour clarifier ces choses-là que les questions étaient posées. Mais il me semble que vous l'emmenez, vous le poussez à un niveau de trouble qui demande à ce qu'on se pose ces questions-là.
Tout à fait. Ah, complètement. Oui. On se pose la question.
Mandico, puis votre texte.
Il y a une part érotique qui passe par la chair, forcément, par le poil, par les liquides, par pas mal de matières. Hein. J'érotise beaucoup les décors aussi. C'est-à-dire que c'est le rapport que peuvent avoir les acteurs et les actrices au décor. Ça, c'est très important. La nature est érotisée. En tout cas, il y a une interaction entre la nature et les acteurs et les actrices, quoi. Donc, ils peuvent jouer à loisir avec cette nature qui va réagir ou révéler des choses chez les personnages. Moi, j'aime bien l'idée d'une nature qui peut donner à la fois du plaisir et puis aussi... de la douleur, quoi. On est autant griffé, fouetté qu'embrassé ou léché.
Ça vient du fond de mon âme, du fond de mon cœur. Je lance cette oraison jaculatoire à Dieu. Je murmure dans la nuit. Mon Dieu, je me donne tout à toi. Mon sperme jaillit. Je le sens qui se répand sur la terre. Ensuite, je reste alangui dans mes genêts, je goûte un moment sublime dans la chaleur de la nuit. J'ai la sensation de m'être encore plus fondu dans la forêt, et je n'ai plus envie d'en bouger. Reste qu'il me va bien falloir arroser ma semence, la dissoudre dans la terre. J'attends que l'envie de pisser vienne, et comme elle ne semble pas venir toute seule, je la force, et tout en restant assis, j'arrose mon sperme de mon urine. Dans le noir, j'ai beau bouger mon sexe, doser mon jet, j'arrose un peu au hasard. Mais je suis bien étonnée de comment, malgré le peu d'envie que j'en avais, j'arrive à pisser longtemps. J'ai bien fait de prendre un demi tout à l'heure au café. Puis, je me demande comment je vais pouvoir marquer cet endroit, ce genêt à 2 ou 3 mètres du chemin. Qu'est-ce que je pourrais déposer au sol que personne ne ramassera et que je pourrais repérer en marchant ? Même quand je n'étais que Jean-Marie Berthomieux, je n'aurais pas savouré à ce point un tel moment. Je ne me serais pas autant attardée dans ce genêt, ni quand j'étais Jacques Bangor. Est-ce que la fusion a exacerbé mes façons d'être, mon rapport à la nuit, à la forêt, au monde, au cosmos ?
Un extrait de Persona non grata, Alain Guiraudy, où le personnage, donc on l'a entendu, il est habité par un autre personnage, ancien amant, ami et voisin, dans un moment de nuit et de rapport à la forêt, peut, parce qu'il éjacule et parce qu'il urine, comme communier, là aussi, fusionner avec son environnement, avec la forêt. Je disais tout à l'heure qu'il y avait plein d'échelles, et que dans ce roman, il y a une échelle qui a à voir avec le cosmos, quoi. Il y a vraiment un rapport très, très fort qui est fait entre la sexualité, le désir et une possibilité de se relier à plus grand que soi, Alain Guiraudy.
Oui. Je reviens sur un truc, parce que vous parlez d'amant, quoi, mais il n'a pas fusionné avec un amant, ils n'ont jamais été amants, hein, le curé et Jacques Bangor.
Et Jacques Bangor.
Parce que justement, le curé, il tient à rester chaste tout le temps, et même ils ont un peu atteint un autre niveau d'amour, mais d'amour chaste, quoi. Et même ceux qui intéressaient aussi beaucoup Jacques Bangor, quoi. Voilà, et ils sont restés là-dedans.
Mais quoi. Ils ont eu un des sentiments, on va dire, quoi.
Ah oui, voilà. Il y a un vrai sentiment amoureux. Ouais,
amoureux, quoi, voilà, c'est ça.
Et
c'est...
Je pense que Jacques Bangor aurait aimé coucher avec le curé, mais le curé...
Comme pas mal de gens dans ce village voudraient coucher avec ce curé.
Pas tant que ça, non. Disons qu'il dort, il va dormir avec les gens, mais normalement, il n'y a pas de désir sexuel. Je pense qu'il y a, cette idée dont je parle beaucoup dans Rabelais, qui est l'amour du prochain, quoi, qui convient très bien au curé, quoi. Voilà, mais l'amour du prochain.
Oui, parce qu'il peut dormir quand, par exemple, il y a un mort, il peut dormir pour rassurer ceux qui viennent de perdre leur disparu, il peut dormir près des enfants, donc il peut dormir pour quelque chose qui est une sorte de poursuite de son sentiment. sentiment chrétien, d'une certaine manière.
Oui, complètement. Oui, tout à fait. Il pousse cette, la miséricorde, l'amour.
Mais ce Jacques Bangor, c'était un peu son amoureux.
Mais, il y a eu une histoire, très forte entre eux, mais en tout cas, jamais sexuelle, quoi, voilà. Et par contre, effectivement, avec la fusion de Jacques Bangor, l'esprit de Jacques Bangor va un peu pervertir celui du curé, et c'est là que ça va tout, va un peu riper, quoi, où effectivement, quand il dort avec les paroissiens ou les paroissiennes, ça se termine, il termine un peu en les enlaçant et en étant en érection contre eux, quoi, voilà, bon. Mais c'est parce qu'il a été perverti par Bangor. Et pour en revenir à l'histoire du cosmos...
Et de la forêt,
Le problème, c'est que j'ai pas grand-chose à dire beaucoup là-dessus.
Bah si, on dit plein de trucs, là.
Oui, non, mais j'ai pas... j'ai du mal à rebondir là-dessus, quoi. Effectivement, il y a le côté cosmique, l'au-delà, toujours pareil, c'est nous, ici, et notre petite vie, nos petits trucs, avec... C'est à ça que sert aussi la mythologie, je pense, à nous mettre en rapport avec ce qui nous domine, ce cosmos, mais qu'on comprend pas, que finalement qu'on a du mal encore à appréhender, et d'ailleurs heureusement qu'on n'est pas toujours en train de se préoccuper du cosmos, sinon on deviendrait fou, quoi, je crois, ouais.
D'ailleurs, il se demande, la foi est mise à l'épreuve, ouais, pour Berthomieux et pour les autres, c'est-à-dire que il y a quelque chose de l'existence de Dieu qui est pas tout à fait assuré dans ce monde. Je dis dans votre roman à vous. Ça les rend inquiets quand même, même dans notre monde. Ouais, dans notre monde, c'est pas tout à fait assuré l'existence de Dieu.
C'est marrant parce que ça m'intéresse beaucoup, la question de la foi. Je suis pas du tout croyant et pourtant, il y a quand même quelque chose qui... Enfin, pourtant, je suis vraiment de culture chrétienne. J'ai été au catéchisme. Je pense que j'ai réellement cru en Dieu, quoi. J'ai voulu croire... en tout cas, j'ai voulu me faire croire que j'y croyais, quoi. Voilà, je pense que c'est aussi un peu quelque chose, un fonctionnement comme ça, la foi, c'est accepter de croire, désirer croire, quoi, désirer qu'il existe un Dieu. Je sais pas ce qui va advenir plus au fur et à mesure que je me rapprocherai de la mort, quoi. Peut-être que effectivement je tendrai vers quelque chose comme ça. Ça répond aussi à ces angoisses-là, quoi, la foi. Mais pour l'instant, non, j'y crois pas. Mais effectivement, c'est quelque chose que je prends très au sérieux, quoi, la foi et croire de toute façon.
Parce que la prière, elle est très présente dans Persona non grata.
Dans Persona non grata, c'est marrant parce que, bon, après, moi, je confonds un peu peut-être les volumes, quoi. Disons que la prière, non, parce que, dans Persona non grata, ce qui est très présent, c'est la prière au poème. C'est la prière au poème qui est une prière, moi, je trouve fabuleuse, c'est une vraie prière, c'est Elisabeth de la Trinité, que j'ai trouvée dans une église, dans l'Aveyron, quoi, et qui est une prière à la fois, je trouve très, c'est une déclaration d'amour à Dieu, c'est une prière extrêmement érotique, et que je peux pas m'empêcher d'appeler prière au poème. Je trouve qu'il y a beaucoup de poésie, quoi, finalement, dans les prières. Après, je suis fasciné. Voilà, ça c'est mon exemple. Je suis fasciné par les prières. Je suis fasciné par tout le rituel religieux, quoi. Même par la messe, par le rituel de la messe, par les chants et tout. Mais il y a un truc que je peux pas faire, c'est croire en Dieu. Il faut se soumettre à Dieu. Et non, quand même me soumettre à un Dieu, non, je peux pas. C'est pas possible.
Et il y a eu autre chose qui rejoint peut-être le genre de texte que vous disiez aimer en tant que lecteur, Alain Guiraudy, c'est la place qui est donnée à la confession, à la pensée intérieure. Ouais. Il y a quelque chose du monologue intérieur que vous explorez et qui donne du coup la possibilité d'aller explorer tous les angles, y compris les angles pas toujours agréables à penser dans l'âme humaine, Alain Guiraudy. C'est ça que ça vous permet, la forme du roman, c'est cette possibilité de plonger à l'intérieur des humains, pensée.
Ouais, complètement. Ouais,
et la confession, il y a l'idée aussi de la confession qui est présente dans Persona non grata.
Et puis même, je pense que même, c'est marrant, parce que j'aime bien rappeler que je mets toujours beaucoup de moi dans chacun des personnages, quoi. Et je vais Je vais même regarder du côté de mes sombres pensées, du côté de mes sombres instincts, des choses pas bien que j'ai faites dans la vie, quoi. Ça m'intéresse aussi beaucoup, quoi. Je pense qu'il y a, il y a ça. Là, je pourrais parler de la face sombre de l'humanité, quoi.
Mais bah, finalement,
oui, mais c'est ma face sombre à moi, quoi. Et de toute façon, je pense pas que je sois fait à l'envers des autres êtres humains, quoi. Donc, j'ai beaucoup de parcours.
Grosso modo, il y a des faces sombres partout dans l'humanité, quoi. On en a témoignage mal.
On a beaucoup de témoignages. Mais je pense que ça m'intéresse beaucoup de rejoindre mon intimité, ben je le disais tout à l'heure, de mon intimité avec les grandes préoccupations humaines, quoi, voilà.
Je voudrais qu'on écoute un nouvel extrait de votre livre Persona non grata, justement, peut-être sur le fait que il n'y a pas beaucoup de lumière en ce moment.
Oui, je crois que je me souviens de ça. Je revois un moment, une période assez précise dans laquelle on a abandonné la partie collectivement, où on a abandonné les affaires du monde à une poignée d'individus dominants. On a laissé le monde au cynique. On a regardé les choses se passer, tout en sachant que ça irait de mal en pis. Je sais que depuis des années, je me dis qu'on va vers la fin de l'humanité. L'humanité en tant qu'espèce, mais aussi l'humanité en tant que valeur. L'humanité qui a perdu de vue les idées d'égalité et de fraternité, qui ne poursuit plus l'idée du progrès pour le bien-être du plus grand nombre. L'humanité a perdu son but. Elle a perdu le but qui me semble pourtant animer la plupart des gens qui peuplent cette terre, vivre en paix et profiter de la vie. Maintenant, la grande question reste de savoir si la fin de l'humanité, c'est la fin du monde. Et j'ai la réponse depuis quelques années. Je sais bien que la fin de l'humanité serait une bonne nouvelle pour les autres espèces, animales, végétales, minérales. La fin de l'humanité serait une bonne nouvelle pour la planète. Mais en pensant ça, j'ai bien conscience que je ne fais que conforter ma passivité par rapport à la marche du monde. Alors je me lève et je range les restes du repas. Et pendant que je fais un brin de vaisselle, j'entends le son de la télé qui se coupe soudain. Il n'y a plus d'image non plus. Et puis je vois la lumière de mon frigo éteinte. Je vérifie. Il n'y a plus de lumière nulle part.
C'est tout le paradoxe et la tension de ce livre-là, Persona non grata, Alain Guiraudy, c'est qu'il y a beaucoup de désirs. Il y a de la sexualité, il y a des érections, il y a un désir de vie. Et parfois, comme dans cet extrait par exemple, on se rend compte que il n'y a plus de lumière nulle part.
Ouais. Mais d'ailleurs, c'est marrant, c'est vraiment, je trouve, le paradoxe de notre monde, quoi. Parce que quand même, je sens qu'il y a quand même encore, finalement, chez la plupart des gens, je sens quand même une vraie envie d'être avec l'autre, finalement, de vivre en paix avec l'autre, quoi. Et, comme je dis, c'est à force que certains se soient pris le pouvoir, quoi, et par cupidité, se soient emparés du monde, quoi, finalement, on rentre dans des mondes de plus en plus guerriers et effectivement, je pense qu'on va quand même droit à la catastrophe, quoi. Voilà, je veux dire que ce soit
c'est ça le fond de Persona non grata, c'est qu'on va à la catastrophe.
Parce que comme vous disiez très justement tout à l'heure, c'est loin. Ça reste quand même assez loin. On en a des échos par la télé. Eux, ils sont juste impactés par des trucs, l'inflation, le blackout d'électricité, quoi. Mais comme nous, quoi. Je veux dire, fondamentalement, moi, quand je vois les guerres, ce qu'on laisse faire, par exemple, en Palestine, quoi, enfin à Gaza, je vois tous les fascistes qui arrivent au pouvoir, quoi. Voilà, c'est les essais nucléaires qui vont reprendre. Bon, je me dis, on va vers quelque chose de très 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 sombre, quoi. Voilà, et j'ai même pas parlé de ce qui nous impacte tous où qu'on vive, qui est effectivement la grande catastrophe écologique. Quand même, bon, normalement, on en entend régulièrement parler, et néanmoins, on arrive quand même Enfin, moi, le premier, hein, non seulement je vais au cinéma, mais je continue à faire des films. Je sais pas si, enfin, normalement, si j'avais réellement conscience de ce qui nous attend au quotidien, quoi, ben, je m'arrêterai, quoi. Voilà, je m'arrête pas parce que je pense que je me cache un peu les yeux, quoi. Mais il y a quand même quelque chose de très, 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 très inquiétant, quoi, qui se profile à l'horizon. Oui.
De toute façon, il y a quelque chose de très inquiété dans ce livre-là, Persona non grata. Bertomieu, à un moment donné, il dit, mais peut-être qu'il y a des questions sans réponse, sans solution. Peut-être qu'il y a des problèmes sans solution, Alain Guiraudy. Et ça lui fait très, très peur. Et, ouais. et j'ai l'impression que la question du mal, qui est une question qui est agitée, quoi, dans Persona, qu'est-ce que c'est qu'être quelqu'un de bien? Eux, ils le montent un peu plus haut en se demandant qu'est-ce que c'est qu'être un saint, mais si on le ramène aux humains, qu'est-ce que c'est qu'être du côté du bien? Ben, ils sont un peu dépourvus.
Oui, totalement, oui. Ben, de toute façon, enfin, moi, c'est marrant parce que, pareil, moi, enfin, là, c'est vraiment moi aussi qui parle, enfin, c'est souvent moi qui parle dans le roman, pendant longtemps, j'ai cru, effectivement, qu'il y avait toujours une solution à tous les problèmes, quoi. Voilà. J'ai même cru à cette histoire de sens de l'histoire. J'avais l'impression que, quand même, ce qui était acquis était acquis et était acquis pour toujours parce que il y avait l'idée du progrès humain et que, une fois qu'on avait progressé collectivement, on ne pouvait pas revenir en arrière. Et finalement, je m'aperçois que non, oui, je pense qu'il y a des problèmes qui sont insolubles, quoi, voilà, des problèmes politiques, moi je trouve qu'ils deviennent vraiment, hein, c'est-à-dire que ça devient beaucoup, de plus en plus compliqué de cette question politique de base qui est comment est-ce qu'on organise ensemble les gens, et quand je parle des gens, c'est 6 milliards d'êtres humains, quoi. Je sais plus si on est encore à 6 milliards, mais dans leur rapport économique et sociaux, quoi. Voilà. Enfin, je veux dire, rien que ça, je pense que c'est devenu quelque chose de très, très, très compliqué à, alors que pendant longtemps, je pensais que si on s'y mettait avec de la bonne volonté, on y arriverait, quoi. Et puis, je m'aperçois que non, il suffit pas que de bonne volonté, quoi.
D'ailleurs, dans ce roman, une des manières de gérer, comme vous le dites, Alain Guiraudy, la possibilité d'être ensemble, c'est qu'il n'y ait plus d'autres. C'est qu'il y ait des fusions, des manières de fusionner ensemble. Et on se rend bien compte que c'est vraiment pas une bonne solution. C'est vraiment pas une bonne idée. Ils ont des potions dans ce village. Et puis, simplement, le début du roman, c'est la possibilité d'abriter en soi quelqu'un d'autre, et notamment le mal. Et puis, vous le disiez tout à l'heure que, bah, une des limites du mal, à savoir la pédophilie, est commise parce que le mal, encore plus mal, est entré dans le corps de Bertomieu. Donc, il y a une manière de solutionner le rapport entre les autres qui fonctionne pas à Gogluz.
Ça fonctionne, oui, même à l'échelle d'un petit village, oui, ça a du mal à fonctionner, donc à l'échelle de 6 millions d'êtres humains, quoi, de 6 milliards, quoi. Mais ça me faisait penser à quelque chose, ce que vous disiez, bon, évidemment.
Mais la porosité, le choix que vous faites, qu'ils puissent tous tendre et avoir tous envie de tendre vers la fusion.
Non, mais la fusion, non, voilà. Le problème, c'est que la fusion, c'est une solution individuelle. Et je veux dire, les solutions individuelles ne marchent pas, quoi. Les solutions individuelles ne sont pas des solutions politiques. C'est des solutions qui valent pour, ça vaut pour Bertomieu.
Bah, ça lui a réussi pas des masses non plus. Hein. Ça lui réussit pas hyper bien, Bertrand.
Non, mais enfin, il continue à vivre. Ah, non, non, lui, c'est sûr que ça lui réussit pas. Non, c'est sûr. Enfin, parce que oui, ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est le monde qui court à sa perte, ça reste lointain, quoi. Mais je prépare la suite, quoi. Voilà. En fait, avec ces séquences-là, quoi. Enfin, je parle de séquences.
Vous préparez la suite d'un point de vue littéraire?
D'un point de vue littéraire, ouais, voilà, ouais.
Il est possible que le mal au loin se rapproche?
Oui, mais le mal, enfin, c'est toujours pareil, c'est-à-dire le mal, je pars dans quelque chose de, est-ce que le mal est si mal que ça? Est-ce que le mal, à un moment, ne peut pas agir pour le bien de tous, quoi? Je suis un peu dans tous ces questionnements-là, c'est-à-dire que même, ben, finalement, bon, on a affaire à un adjudant qui est très, 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 très dur, très, très dur, quoi, voilà.
Bête, mais, un peu aussi.
Est-ce que,
bête un peu aussi, non?
Moi, je le trouve pas bête.
Non, vous le trouvez pas bête, l'adjudant.
Ouais, mais moi, je
vous l'aimez bien.
Je l'aime bien, l'adjudant.
Ouais, moi, je l'ai pas trop aimé, moi.
Enfin, il y a quelque chose qui me plaît bien chez lui, quoi. Mais parce qu'il est très, il est très rigoriste, mais il est rigoriste jusqu'à la torture, quoi.
Ouais, bah, bête,
mais,
du coup.
Je veux dire, non. Est-ce que,
Alors moi, les gens rigorisent jusqu'à la torture, vraiment, je les trouve bêtes.
Est-ce que c'est de la... Non, je dirais... Bon,
c'est peut-être pas de la bêtise. Moi, je trouve que c'est de la bêtise, mais je
il faut pas...
Ça fait courir l'humanité à sa perte.
C'est pas... Disons que c'est pas un exemple à suivre. Je suis
non.
Mais c'est pas... Non, je pense pas que ce soit de la bêtise.
Mais je vous ai coupé, pardon. Voilà. Vous alliez vers l'adjudant. Vous preniez l'adjudant en disant...
Et du coup, son côté rigoriste, je veux dire, est-ce que à un moment, ça pourrait pas servir l'humanité d'être très 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 rigoriste? Je sais pas, la droite républicaine ou l'extrême droite arrête pas de nous emmerder avec l'écologie soi-disant punitive, quoi. Voilà. Est-ce que, à un moment, il faudrait pas être un peu plus dur? Face à l'urgence écologiste, écologique, est-ce qu'il faudrait pas être plus dur, quoi, voilà, appliquer les règles du code de la route, le code de la route est punitif.
Hein,
il y a quand même pas mal d'automobilistes qui en font les frais chaque année, quoi, en perdant leur permis ou en...
Mais bon, je sais pas si on va ouvrir la conversation à Alain Guiraudy sur les régimes punitifs et rigoristes politiques dans le monde, ça n'a pas donné que des bons exemples. C'est ça que je voulais dire. Mais
ça donne pas de bons exemples. Le problème c'est que
Mais là on sort de votre roman et je suis pas sûr de vouloir y aller.
On y revient parce que justement dans l'extrait c'était très intéressant, on a perdu de vue l'égalité et la fraternité.
Absolument,
quoi.
Et on a
on l'a perdu à quel dépens? On l'a perdu au dépens de la liberté. Et à force de laisser aller la liberté à tout craint, quoi, effectivement, qui jouit vraiment de la liberté aujourd'hui, quoi? C'est des gens qui ont les moyens d'en jouir, quoi. Voilà. Et c'est vraiment, ça s'est vraiment fait aux dépens de l'égalité et de la fraternité, pour moi, ouais. L'essor de la liberté.
Hein. On va écouter Christophe, auditeur du Book Club. Il vous a lu. Il vous adresse une question.
Bonjour le Book Club. Bonjour Alain Guiraudy. J'ai lu votre roman et j'ai retrouvé le même plaisir, le même enthousiasme à suivre cette nouvelle aventure de Jacques et Jean-Marie. Qu'est-ce qui anime votre écriture et est-ce que vous mettez des freins? Merci pour votre réponse.
Question courte. Qu'est-ce qui anime votre... Merci beaucoup, Christophe. Qu'est-ce qui anime votre écriture? Et est-ce que vous vous mettez des freins? Si vous voulez, on peut considérer que ce qui anime votre écriture, on vient de passer 51 minutes à le faire.
J'ai l'impression, ouais.
Voilà. Alors peut-être profitons de ce que Christophe demande. Est-ce que vous vous mettez des freins?
C'est marrant parce que justement je suis revenu au roman parce que je me disais j'avais beaucoup de frustration dans le cinéma. Et effectivement, je m'aperçois qu'en littérature, ouais, j'ai pas encore été au bout du bout, quoi. Voilà, chaque roman, j'ai l'impression que je vais toujours un peu plus loin, mais quand même, on peut pas, non, ouais, je me mets encore des freins, ouais.
Mais ça veut dire quoi, aller toujours un peu plus loin?
Aller toujours un peu plus loin, non, mais même dans la réinterrogation de la morale ambiante, par rapport à la pédophilie, par exemple, j'ai fait gaffe de pas aller trop loin, quoi.
Vous allez quand même pas mal loin, Alain Guiraudy.
J'ai fait gaffe.
Moi, j'avais la gerbe en lisant ces pages. C'était dur pour moi de lire ces pages.
Et c'est pas plus dur de lire ce qu'il fait à Rosine derrière.
Mais si, c'est très dur, je veux dire. Mais bien sûr, je hiérarchise encore, et je sais pas si vous voulez qu'on ouvre cette conversation, mais je hiérarchise la violence faite aux enfants et la violence faite aux adultes, c'est vrai.
Ouais, ok, ouais.
C'est vrai. C'est plus dur pour moi.
Je suis assez... mais moi aussi, ouais.
C'est pour ça que j'ai eu plus la gerbe en lisant ces passages-là qu'en lisant les violences.
Il est moins violent avec l'enfant qu'avec la... Avec la
non,
avec
ça, je peux pas laisser le dire, mais bon.
Voilà, c'est... Ouais. Ça, c'est... Et oui, effectivement, oui, je me mets des freins, quoi. Je suis pas le marquis de Sade encore, quoi.
Mais vous aimeriez?
je pense pas en plus. Non.
Parce que vous parlez de la liberté et de pouvoir jouir de la liberté.
Ouais. Et ouais.
On peut se dire que peut-être vous voudriez en jouir davantage.
Moi, je dis pas que je veux jouir de la liberté à tout créer. Moi, je suis pour l'égalité. La fraternité. La liberté. Alors, après, je suis pour un juste équilibre entre liberté, égalité, fraternité. Mais la liberté à tout créer.
Vous êtes Marianne, en fait.
La liberté à tout créer. Oui, je suis très, je suis fondamentalement républicain, ouais. La liberté à tout créer ne m'intéresse pas parce que la liberté à tout créer, c'est la liberté à tout créer pour certains. Et et qui empiète nécessairement sur la liberté des autres. Quoi. Ma liberté s'arrête là où commence celle d'autrui. Donc
les freins, là, pour en revenir à la question de Christophe, c'est des freins qu'on a à avoir. Donc pas tant avec la morale, parce que vous avez pas trop... Enfin, c'est pas tellement ça qui préside...
Aussi. Même en voulant réinterroger la morale, quand même, on est quand même obligé de rester un être moral. Je pense que quand même j'ai aussi ça en tête quoi toujours quoi voilà ouais c'est il y a des freins oui
mais c'est intéressant cette question des limites posées par Christophe
c'est une vraie question et je pense que les freins ou les limites que ce soit dans le monde ou dans la littérature même en termes artistiques ça m'intéresse aussi.
On voit bien que c'est même ça qui vous intéresse, Alain Guiraudy. C'est d'aller proche de ces limites-là pour voir.
Mais ça m'intéresse qu'il y ait des limites.
Moi aussi, ça m'intéresse beaucoup. Ouais. Puisque vous dites que vous êtes intéressé par notre possibilité de vivre les uns avec les autres, s'il n'y en a pas, c'est difficile. Des limites.
Exactement, hein? Tout à fait.
Normalement, ça ne marche pas. Il y a un jeu à la fin du book club qui s'appelle le grand jeu des pages musicales. On cherche de la musique dans les livres. Et il n'y en a pas tant que ça dans Persona non grata. Pas beaucoup de musique.
Il n'y en a pas du tout, même, non ?
Mais si, on a cherché.
Bon, d'accord.
Et vous allez voir ? Non, il y en a. On se termine donc avec un extrait de votre livre de Persona non grata, paru aux éditions POL. Plus personne ne dit rien, et les rares qui parlent le font à voix basse. Sans doute qu'ils veulent tous savoir de quoi on parle tous les quatre. Ce qui nous amène dans le coin, et les deux Daniel jettent un œil vers la salle, l'air de dire « Occupez-vous de vos affaires ». Les discussions reprennent mollement. « C'est peut-être gênant qu'on se voit ici », me chuchote Rémi. « Vous voulez qu'on aille ailleurs ? J'aimerais bien boire ma bière. » Je lève mon verre, je dis « Santé ». On trinque, j'en profite pour jeter un œil autour de moi. Je ne suis pas mécontent de montrer que j'ai des copains avec qui boire un verre. « Je n'ai vu Chantal qu'une fois », je finis par dire. « Elle était chez le voisin du dessous de Jacques ». J'ai cru comprendre qu'ils étaient en couple. Il est venu me voir il y a quelques jours. En disant ça, je réalise que c'était avant-hier. Vendredi donc. Je réalise qu'on est dimanche, et c'est donc un peu normal qu'il y ait du monde à l'apéro. Par contre, pourquoi est-ce que la télé n'est pas allumée ? Le patron met de la musique. Il envoie même carrément ZZ Top. Je sais pas si c'est la radio ou un CD, et comme je le regarde pour le remercier, la musique couvrira notre conversation, il me fait à nouveau un clin d'œil. Il m'a vraiment à la bonne. Je continue donc. Il n'allait pas bien. Il voulait se confesser. Alors, ne me demandez pas pourquoi il a fait tout ce chemin pour vouloir se confesser à moi, et comme je ne suis plus prêtre, j'ai refusé. Les conversations reprennent autour de nous. Il parle fort à cause de la musique. Je dois donc un peu hausser la voix, moi aussi. Merci Alain Guiraudy d'être venu évoquer ici Persona non grata.
Merci à vous, merci pour l'invitation.
On mettra évidemment sur le site du Book Club les autres livres parus aux éditions POL. Et un lien vers vos films. Aujourd'hui au son, c'était Nicolas Leroulet à la réalisation, Vivien Demeyer. Un très grand merci à toute l'équipe du Book Club qui m'aide à penser, préparer, programmer ces émissions. À Noé Margas qui vous a dit comment l'émission allait se passer. Apparemment très bien, Alain Guiraudy.
Très bien. Bon briefing.
Et Jeanne Aléos qui a préparé avec moi cette émission. Vous pouvez poursuivre la conversation sur le compte Instagram du Book Club, animé par Alexandre Alaïbekovitch.